Rectangle avec le soutien de Sabam for Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rectangle. Alors j'ai la grande chance d'avoir aujourd'hui la Féline. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux t'appeler la Féline, je ne sais pas.
Oui, tu peux m'appeler la Féline, ouais.
Alors moi je suis évidemment ce que tu fais depuis très longtemps, enfin très longtemps, depuis avant le premier album. Tu m'avais d'ailleurs contacté à l'époque pour me faire écouter, en recherche d'avis et de production. Et toi là déjà avec ton troisième album alors. Peux-tu un peu me resituer un peu ce parcours parce que...
Oui, c'est toujours étrange de se dire comment... C'est pas un bilan, ouais, mais non, de se retourner. Mais... Alors le parcours, je dirais que ça fait bien 12-13 ans que je fais de la musique sous le nom de la Féline.
Et... Qui vient d'où ce nom ?
Alors, qui vient d'un film de Jacques Tourneur, voilà, avec Simone Simon, un film de 1942 que j'avais vu. Voilà, j'ai dû voir ça aux alentours de 2007. Et j'avais été marquée par ce film parce qu'il y avait ce côté très élégant, une espèce de description d'un monde assez gothique et assez inquiétant, mais sous une apparence... finalement très contrôlé, du noir et blanc, d'une élégance à la française, mais transposée à Hollywood. Enfin, et j'aimais bien ce côté aussi très français, et le fait de garder un nom aussi francophone. C'était l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, tous les groupes, c'était des groupes en « the ».
C'est des modes,
2007, là, tout le monde. Et puis moi, je trouvais ça un peu ridicule. Et donc, je m'étais dit, non, je veux un nom que des anglophones puissent dire sans trop de difficultés. Et des hispanophones aussi. Donc, ça vient de là. Et puis après, j'ai même trouvé d'autres significations. Je me suis dit, ah, tiens, à un moment, elle est enfermée. La panthère est dans sa cage. Et puis, je me suis rappelée que petite, on me laissait dans mon parc. Et puis, on me laissait toute seule, tu vois. Et comme il y a ce projet un peu dans la Féline de parler de... C'est un peu quelque chose d'existentiel, quoi. La musique, elle est là pour raconter aussi des souffrances enfantines ou des bonheurs. Enfin, c'est pas que de la souffrance, mais c'est aussi... souvent parce que tu as eu certaines souffrances que tu as besoin de chanter. donc voilà, c'est pas qu'une posture comme ça, un peu so Frenchy, so chic. Tu vois.
Non, pas du tout, parce que je me souviens même au temps du premier album, il y avait une vraie recherche, un vrai questionnement que tu avais dans nos échanges qu'on avait à l'époque sur comment faire rentrer justement dans la chanson quelque chose qui est de l'ordre de, je veux dire, de l'esthétique, comme tu viens d'expliquer, mais aussi de cet environnement qui t'était propre et de... de ta vie et de ton enfance, etc.
Ouais.
Donc il y avait une vraie recherche aussi de...
D'expression
ouais, de toi, enfin, je veux dire.
Oui, ouais. Bah, en fait, ça... parce que tu te rends compte... Bon, moi, je ne suis pas une musicienne virtuose, mais je commence à savoir faire différents trucs, tu vois, en chant, je sens qu'il y a...
Moi, je trouve que tu es très douée, mais bon...
Ouais, non, mais tu
modeste.
Vois, je pourrais... Mais c'est vrai que... Il y a des moments où tu te rends compte que tu peux faire des choses, mais qu'en fait, ce n'est pas toi. Enfin, tu vois, en fait, c'est pas ce que tu veux, ou ça fonctionne pas, ou c'est pas... Et c'est pour ça, il y a toujours plusieurs paramètres, quoi. Quand tu fais une chanson, tu te dis, bah, déjà, ce que je sais faire, mais aussi ce que je sais faire et qui exprime quelque chose de vraiment personnel. Et il faut au moins qu'il y ait ce recoupement, quoi. Parce que... Et donc, voilà, bah, en passant par des choses très... très existentielles, et ça m'aide à faire des chansons que je reconnais comme miennes, quoi.
Ça donnait donc l'album Adieu l'enfance alors.
Ouais, ça avait donné l'album et qui a été vachement important parce qu'en fait j'avais fait d'autres chansons avant et bon que j'ai certains fans hardcore qui continuent de m'en parler de ces chansons, mais et qui comptent évidemment, enfin tout compte, c'est pas ça, mais Adieu l'enfance c'est vraiment le moment où je fais ce morceau en parlant de ce truc genre mon père s'est pas occupé de moi, enfin je raconte pas ça, je dis pas ça directement dans la chanson,
bien sûr. Mais,
tu vois, et là tout à coup plein de gens se sont mis j'ai eu des messages, j'ai même eu des lettres de gens qui me disaient mais j'ai reconnu ce que j'avais vécu dans ta chanson. Et là je me dis ah ouais, bah c'est ça que je veux faire, quoi. C'est faire des choses qui soient si intimes qu'elles sont partagées, quoi. Si personnelles qu'elles sont universelles. Et c'est pour ça que cette chanson notamment et ce disque qui était limité dans sa production, on avait 4 instruments, la basse, la guitare, la 808, la petite boîte à
rythme.
La TR, j'avais TB303 dans la tête, je sais pas pourquoi. Non, on avait pas de TB303, on n'a pas fait de acidas. Voilà. Bon, enfin, une boîte à rythme, une basse, une guitare et un synthé, un JX3P. Et je voulais que ce soit vraiment autour de ces instruments. Il n'y avait pas grand-chose, mais bon, c'est un album qui suscite l'attachement Et je crois que comme artiste, mm-hmm. c'est un truc qui compte pour moi. Tu vois, j'aime penser que les gens qui suivent la Féline sont attachés à certaines chansons. C'est pas genre, ah, c'est trop cool. Enfin, c'est pas juste trop cool, quoi.
Sur ton rocher.
cet album, Adieu l'enfance, il sort comment en fait à l'époque? Il sort déjà sur... Tu as un producteur?
Ouais,
tu as
alors, une... à l'époque, je commence à faire... J'ai une espèce d'aventure avec un producteur français vivant à Londres, qui est le producteur de... qui était le mec de John et Jen.
Ok.
Et parce que mon manager de l'époque est proche d'eux. Et donc, je vais à Londres et je fais une version d'un morceau, là, Les Fashionistes, une version un peu over the top. Que du coup, finalement, je n'ai pas sorti, mais qui était très efficace. Faite pour, c'était le producteur de l'Escope.
Oui.
Donc, tu vois, c'était le moment. Et puis, je ne sais pas, ça ne le fait pas, finalement, parce qu'ils attendaient un peu que, comme l'Escope, qui avait un peu joué sur le côté Ian Curtis, tu vois, moi, que j'ai mon équivalent cred dans l'histoire du rock. Et bon, ils me disaient, ouais, un peu Nico. Et bon, moi, évidemment, j'adore Nico, mais je pense
un peu plus.
Quoi. Voilà, je ne suis pas... Enfin, tu vois, j'ai pas... D'ailleurs, je n'ai pas envie d'être une autre Nico. J'avais envie d'être Agnès Guéraud, quoi, d'être la féminine.
Je pensais que le film Nico a été tourné ici à Liège, produit par aussi. Ah. Et donc, ils ont fait des coupes de maisons ouvrières.
D'accord.
Ici. Donc, Excellent. On voit que c'est ici, nous. Mais...
Ah, super.
Pas vraie parenthèse.
Mais bon, enfin, voilà. Donc, ça l'avait pas fait. Et donc, on s'est retrouvés vraiment tous les deux avec Xavier. Et on s'est dit, on va faire simple. Et c'est pour ça qu'on avait fait avec quatre instruments. Et puis, une fois que l'album était fait et que Stéphane Alvbria avait accepté, parce qu'il a été super cool de me le mixer... pour 4 francs 6 sous, je l'ai présenté à Marc Collin, parce que j'étais allée voir plein de maisons de disques, et il me disait, ouais, c'est fini, la pop à synthé.
Donc Marc Collin est devenu un peu ton... a suivi ton aventure.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que là, ça, tu vois, je commence, j'ai eu déjà toutes ces chansons en 2012, et l'album sort en 2014, donc il y a quand même 2 ans de galère.
Mais enfin, ça, c'est le temps maison de disques, les gens ne savent pas, mais souvent, ça, il y a toujours au moins 2-3 ans
de... Et le temps, voilà, où je me suis vraiment entendue dire, ouais, ça, c'est fini la pop synthétique en France. T'imagines, quoi, les mecs te disent ça en 2012, et là, on s'est mangé de la pop synthétique pendant une décennie, en réalité, quoi, mais bon... Et non, Marc Collin est le seul à me dire, écoute, moi j'adore, mais je veux arrêter le label, son label, Quaidan Records, je veux faire du cinéma, machin. Et puis il me rappelle, il me dit, bon, en fait on va le sortir, ça me coûte pas grand chose, on fait un contrat de licence 50-50 à l'anglaise. Et donc il l'a sorti, et ça a un peu changé ma vie de musicienne, parce que tout à coup j'étais un peu moins dans l'underground de l'underground, quoi. À l'époque il y avait la Souterraine qui me soutenait, il y avait les boutiques sonores et tout, il y avait une curiosité, une attention, mais j'avais fait les Francopholies de La Rochelle, mais je me sentais pas bien, j'étais pas adaptée à, tu vois, aux attentes un peu pro qu'il y a des fois en France, enfin. Je sais pas, on arrivait toujours sur scène, on n'avait même pas assez répété. Enfin, à chaque fois qu'il y avait des moments importants devant les pros, on se ratait. Enfin, j'étais pas dedans, quoi. Je voulais juste faire ma musique, je faisais ma thèse de philo.
C'est difficile aussi de, comment dire, d'être motivé par jouer devant des pros. C'est quand même le public le plus mauvais.
Mais ouais, mais pour
Et puis,
moi,
c'est justement un public que tu arrives à donner, pas devant des... De pro, c'est le pire.
Mais c'est ça, c'est affreux. Et puis, voilà, c'était pas pour ça que j'étais venue, quoi. Enfin, donc, voilà, j'en étais presque en 2012 à me vivre comme une espèce de... Enfin, quelqu'un qui avait intéressé plein de maisons de disques parce que les chansons intéressaient les gens. Et puis, à chaque fois, c'est comme si c'était décevant parce que... Ouais, j'étais trop intello. Je faisais ma thèse de philo en même temps. Enfin, j'étais pas comme il fallait, quoi.
Quelque chose qui a peut-être changé aussi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est le fait que maintenant, on peut être, on en revient tout à l'heure, en même temps, faire une thèse de philo, faire de la musique, dessiner, être acteur, ou même écrire des livres comme tu fais.
Ouais.
Je veux dire, il y a une ouverture maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas en France, dans les pays anglo-saxons, c'est que les gens pouvaient être multi...
Oui, oui.
Mais le musicien devait être, ou l'interprète devait être uniquement le chanteur.
Ouais, ouais.
Je pense que ça a commencé à changer un peu dans le rapport avec l'industrie qui a changé aussi.
Complètement. Et puis, bon, là, c'est sûr qu'en sortant le livre Dialectique de la pop, ça a changé les choses. Après, là, j'ai pas un article sur la féline qui ne commence par un bout de mon CV, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage aussi, en un sens.
Oui, oui, mais bon.
C'est comme ça, mais... Bon, ça, et ça, voilà. C'est, du coup, Quaidan et Marc Collin, c'est le début d'un moment où je suis entourée. Je suis enfin entourée par des gens qui me demandent pas d'être autre chose que ce que
c'est
je suis.
C'est ça.
Tu vois, qui me demandent de progresser, d'explorer, mais avec une bienveillance par rapport au produit initial, quoi. Et voilà, Marc Collin, c'est quelqu'un d'hyper cultivé en musique. Enfin, il connaît beaucoup de choses et il a une vraie sensibilité. Alors, je ne l'ai jamais pris comme producteur. Hein. Je suis toujours arrivée avec mes trucs finis. C'était un peu t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Mais il a eu la bienveillance et le... Ouais, de continuer à m'encourager. Et donc, il m'a signé comme artiste ensuite sur l'album suivant. Et le troisième aussi, je serais sortie chez eux. Ouais. Donc, du coup, voilà, ces trois albums, c'est les années Kwaïdan.
Les années Kwaïdan, c'est beau.
C'est ça qui ne sont pas encore terminés. Et d'ailleurs, j'ai vu le film Kwaïdan récemment, qui est magnifique, le film de Kobayashi.
Ah oui, chouette.
Ah, ouais, fantastique, avec quatre petits épisodes. Et une musique incroyable de Toru Takemitsu que je recommande aux auditeurs sais être amateur de musique.
On va
le
mettre en musique de fond.
Ouais, Toru Takemitsu, ah, c'est fantastique.
Et donc après cet album Adieu l'enfance, Triomphe arrive.
Voilà, Triomphe.
Quelle est l'évolution entre ces deux albums? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une tournée?
On tourne un peu, mais pas énorme.
Voilà, c'est le début, quoi. Ouais, c'est le temps de Friends and Bells.
Mais on fait quand même des dates. Enfin, il y a quand même un premier pas.
Et tu as fini ta thèse de philo.
Et j'ai fini ma thèse de philo. Oui, en fait, je l'ai fini en 2010. Donc là, j'ai plus d'excuses. Là, je te parlais de 2012 tout à l'heure, mais oui, en fait, j'avais déjà fini, je crois. Non, attends. Oui. Mais en tout cas, ce qui se passe musicalement, c'est que Adieu l'enfance, c'est un album de chambre. Et le jouer sur scène, il y a de la boîte à rythme et tout. Et au bout d'un moment, j'en peux plus de la boîte à rythme en groupe. Enfin, toute seule, j'aime bien. Mais avoir un groupe avec la boîte à rythme, ça me gave. Et j'ai envie de vraie musique, de retour à quelque chose de plus organique, plus boisé. Et c'est une espèce de balancier, ce truc. Parce que je sens que dans ma vie de musicienne, je passe tout le temps de l'un à l'autre, quoi. D'envie, de son synthétique, de texture. Et puis hop, de retourner aux instruments, à des choses plus tactile, enfin, bref. Et donc Triomphe, c'est vraiment le moment où j'ai envie qu'il y ait des bois, des cuivres, j'ai envie qu'il y ait de la guitare saturée dans les morceaux, et je vais à Paf. Entre-temps, j'ai découvert ce lieu, qui est un lieu en Picardie, qui est un lieu où plein d'artistes peuvent venir, enfin n'importe qui, pas forcément artiste d'ailleurs. Et tu loues ta chambre pour 15 euros la nuit, et un peu moins si tu restes plus longtemps, et t'as des endroits, des espaces. Et là, on enregistre tout l'album avec des musiciens que j'ai rencontrés sur place, avec mes musiciens qui me suivent déjà depuis Adieu l'enfance, mais aussi des musiciens que je rencontre sur place, et Xavier qui est toujours le réalisateur attitré. Et voilà, et on met de l'octobasse, tu vois, on joue aussi, il y a un super saxophoniste aussi qui joue dessus, Yoran Durand. Et là, je laisse s'exprimer certains goûts, voilà, pour des trucs plus prog, pour Robert Wyatt, pour même des trucs un peu, voilà, ce jazz justement un peu à la Robert Wyatt, c'est-à-dire pas du jazz hot, quoi, mais du jazz, l'influence jazz sur la musique prog dans les années 70, donc tout ça est très...
Et les textes parlent de quoi, alors, ici?
Et les textes dans Triomphe, je suis à une période de ma vie où il y a peut-être davantage le besoin de raconter des histoires, enfin des espèces de mythologie, tu vois. Donc toutes les chansons de Triomphe sont un peu une sorte d'incarnation de moi-même. Senga, c'est l'anagramme d'Agnès, et c'est un peu la Agnès qui serait une sauvageonne, tu vois. Ça m'a toujours fait rêver, cette idée d'enfant, tu sais, élevé par des loups, de gens qui étaient retrouvés au 19e siècle nus dans la forêt, puis on essayait de les remettre comme ça dans la société. Il y a une histoire comme ça dans l'Aveyron d'une femme qu'on avait retrouvée, puis elle s'était échappée, puis on l'a recapturée. Enfin, c'est avec cette volonté de capturer comme ça le sauvage, et puis elle avait fini par mourir dans un couvent. Enfin, une histoire très tragique. Donc c'est plus ça, le moment Triomphe, c'est un moment d'image où il y a presque un truc un peu de mythologie aussi grecque. J'ai toujours aimé ça, donc à ce moment-là, ça donne un disque qui est un peu plus chiffré, je pense aux runes. Il y a quelque chose d'un peu pas de cartomancie, mais ouais, d'ailleurs il y a le thème de la cartomancie aussi. Et je sais qu'il y a des gens, tu vois, qui avaient adoré Adieu l'enfance, et là du coup ils se sentaient moins proches. Et il y en a d'autres, voilà, qui ont aimé. En Angleterre, c'est un disque qui a marché au-delà de toute espérance, enfin. Mais j'ai eu une presse qui était presque incroyable, au sens Tu vois, genre uncut, 9 sur 10, depuis quand les Français font mieux de la pop que les autres? Enfin, tu vois, des trucs.
Alors, ça fait plaisir, ça, quand
ça
même.
Fait plaisir, ouais, ouais, c'était enthousiasmant. Sauf qu'il est sorti un an après. Il est sorti en 2017 en France, et il est sorti en 2018 en Angleterre. Donc, c'était mal géré, tu vois, la promo. Enfin, on avait. Donc, j'ai pas pu faire de tournée, puis après, je suis tombée enceinte, en fait. Enfin, donc, au moment où j'aurais pu aller faire des dates en Angleterre, j'étais enceinte de 6 mois. Et je voulais pas prendre de risques, tu vois. Mais bon, ouais, il y a de très belles reconnaissances. Et j'avais reçu un message de Terry Allen, des Specials.
Ah oui.
Voilà, qui m'avait dit « I'm playing your record to death
». Qu'il était fan.
Hyper fan et tout, tu vois. Donc, et là, c'était marrant parce que pour des Anglais, au contraire, le français avait quelque chose de... hyper fantasmatique. Et là aussi, ça rendait fier de chanter en français, quoi, parce que ça donnait un truc dont il comprenait pas totalement les tenants et les aboutissants, mais qui était excitant, justement. Donc, voilà. Et puis, après chaque album, moi, je me dis, bon, c'est le dernier, parce que là, j'ai vraiment... Enfin, je me dis pas c'est le dernier, je me dis pas c'est la dernière fois que je fais de la musique, mais je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant, parce que j'ai tout dit, quoi.
See you.
et puis, bah, heureusement, la vie nourrit et nous apporte d'autres choses. Et puis, vie future, il est venu. On a beaucoup jamé avec Xavier pour.
Donc Xavier est toujours là.
Ouais, je suis assez fidèle.
Oui, je vois, ça c'est bien.
Et voilà, on a beaucoup. Et on avait même fait ce morceau pour Lio au départ. Et
oui, juste, oui.
Qui a complètement changé de parole et tout.
Oui.
Mais donc tu as contribué en fait au travail.
Excellent.
Tu vois, ouais. Et puis voilà, je suis tombée enceinte. Et ça.
Donc à la fin du deuxième album, ça.
Vraiment, une fois que quelques mois après la sortie du deuxième album en Angleterre. Ouais.
Avec ce deuxième album, il y a aussi des rencontres avec un personnage qui ne fait pas du tout la même musique que toi, mais qui a aussi cette envie parfois de retourner vers les machines, d'être seul et de vers le côté un peu boisé et musical, c'est Dominica, je pense.
Oui, tout à fait. Ouais.
Vous avez quand même des points communs. En tout cas, je pense qu'il apprécie ce que tu...
Oui. Il est... outre le fait que c'est quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de grandes chansons, c'est quelqu'un de très, très bienveillant et attentif à la scène musicale autour de lui. Enfin, dans ton genre, quoi. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ce que font les autres et qui comprend très bien. Et voilà, donc moi, à l'époque, il avait découvert Adieu l'enfance, il avait écrit sur son blog, c'était un de ses disques de chevet.
Ça fait plaisir aussi, incroyable.
Ouais.
Ça ne m'étonne pas qu'il a aimé, parce que c'est beaucoup d'éléments, de choses qui...
Oui, où on se comprend, je pense. Et Triomphe aussi, ça, je l'avais envoyé. Et là, il m'a écrit de lui-même pour Vie Future en me disant que c'était le plus beau que j'ai fait. Enfin, bon, alors, malheureusement, il ne l'a pas dit publiquement, mais il me l'a écrit très, très chaleureusement. Et je l'ai entendu dire maintes fois, et on l'entend d'ailleurs dans sa musique, et je l'ai entendu le dire que qu'il avait toujours ce balancier en lui entre se draper dans un truc peut-être plus indé, plus exigeant, plus tendu, et puis le désir d'une musique comme ça, plus enveloppante, plus consolatrice. Et donc plus organique parfois. Enfin, et là, il a sorti deux albums, dont un est plutôt du côté machine et l'autre du côté. Donc là, chacun a sa manière d'exprimer ce.
Avec cette idée aussi de jouer parfois seul,
une
partie de l'année, et puis une partie de l'année en groupe, je pense.
Ouais. Et très, très, très. Moi, je l'ai vu plusieurs fois seul. Il y a pas mal de gens qui préfèrent même le voir seul parce qu'il y a une intensité particulière. Ouais, lui, pour le coup, c'est un grand. Enfin, il est très bon en manipulation de ses pédales.
Et lui-même écrit d'ailleurs, écrit des romans.
Oui, roman, j'ai jamais lu. J'avais lu des petits textes qu'il a écrits sur ses morceaux, Ma vie en morceaux.
Je crois qu'il a écrit un roman sur son enfance aussi, je n'ai peut-être pas lu, donc je ne vais pas me lancer dans la critique littéraire.
Ouais.
Mais je pense qu'il a aussi cette envie de sortir aussi de la musique.
Et parfois, on a besoin d'un peu d'extériorité. C'est vrai.
Autre personnalité aussi à qui tu as pu travailler, c'est Laetitia Sadier, qui est quand même quelqu'un, peut-être en France on ne se rend pas compte, mais qui représente quand même beaucoup. Enfin, représente quelque chose, en tout cas, d'important à l'étranger. Et on le constate depuis la reformation de... Enfin, c'est même pas la reformation, mais la nouvelle tournée de Stereo Lab, où un nouveau public vient aussi. Et comment s'est passée cette rencontre?
Alors ça, c'était... c'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps. On avait partagé une scène en 2008, je crois. Enfin, vraiment, là, j'étais au tout début. Et alors, je raconte juste l'histoire, parce que j'étais avec mon groupe, avec Xavier sur scène et Stéphane Bellitti qui m'accompagnait. Et on n'avait pas d'images. Tu vois, on voulait avoir des images projetées derrière nous. Et Stéphane avait pris au hasard des DVD qu'il avait pris dans une médiathèque. Et en fait, donc à l'époque, le répertoire de la Féline de l'époque, c'était genre Mystery Train, enfin des trucs paniers, mais assez doux. Quoi. Et en fait, les gens étaient un peu sidérés et on ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'au moment où on a compris qu'en fait, c'était sur l'après-guerre en Europe, donc avec des images de Charlie, trucs horribles. Et il y avait des mecs qui étaient là, mais c'était incroyable avec cette voix douce et tout, ça produisait un truc. Cette histoire est complètement improbable. Bon, bref, en tout cas, ce jour-là, Laetitia Sadier avait joué avant nous en guitare-voix, mais on lui avait à peine parlé. Et après Triomphe, je me suis dit, tiens, il y a Red Bull qui a proposé que je fasse quelque chose avec un musicien, de m'accueillir dans ses studios. Et j'ai proposé Laetitia Sadier, et elle est arrivée au point éphémère où je répète avec son sac à dos et sa guitare. Et on s'est mis dans une pièce, et puis je lui ai proposé la base d'une chanson, et on l'a parfaite ensemble. Et puis on a repris une chanson qui s'appelle Le Royaume, et qui est sur Triomphe, et on l'a reprise et adaptée pour nous deux, avec une version, enfin, elle en talk over en anglais, quoi. Et on est devenus très, très amis parce que c'est quelqu'un de très simple et voilà, qui m'inspire beaucoup de respect. Donc je suis allée à Londres, on a joué ensemble plusieurs fois. Elle est venue à Paris m'accompagner pendant un concert à la Boule Noire et tout. Donc c'est super. Donc on se donne régulièrement des nouvelles. Ouais.
Obscure, it's meant to be that way. Wouldn't be so charming otherwise. It said, hey, yeah. If you sing me twice, you'll get advice of what could be helpful. Hey, yeah. 'Cause there's many. Thank you.
parler de ces deux personnes parce que je trouve que ton univers, il n'est pas question de mettre des cases, mais s'inscrit bien dans, entre ces deux univers.
Oui, tout à fait.
Qui sont deux univers. Je sais pas, je trouve qu'il y a des choses communes dans ces deux personnalités.
Oui, un rapport à la francophonie aussi qui est. Et qui est marqué par des musiques anglo-saxonnes, en fait. Mmh. Enfin, c'est ça.
Mmh. Et puis, tu débarques dans un trip de science-fiction, alors après.
Ouais.
Et pour le
alors,
troisième.
La science-fiction, j'ai toujours aimé ça. J'en ai toujours lu. J'ai lu Fondation de Asimov. Enfin, des classiques. La stratégie Ender. Enfin, je sais pas, il y a plein de... Je pourrais citer plein de choses. Surtout les Robert Silverberg. Les monades urbaines de Robert Silverberg. C'est fantastique. Ou le Livre des crânes. Drôle de titre, mais très très beau livre. Et The Book of Skulls, je crois, c'est en anglais. Et bref, j'ai toujours aimé ça. Et un livre de Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Rama, où pendant tout le bouquin, il décrit... En fait, c'est la description d'une espèce de vaisseau suspendu comme ça dans l'espace. Donc c'est hyper contemplatif et tout. Et je parle des livres, mais les films de science-fiction comptent parmi aussi les films qui comptent le plus pour moi, bon, de 2001, l'Odyssée de l'espace, même à Gravity, de Quaron, enfin... je parle beaucoup souvent d'un film réalisé par l'assistant photographie de Kubrick dans 2001. Et c'est Douglas Trumbull qui a fait un film qui s'appelle Silent Running, avec un type comme ça qui est sur une planète terraformée, qui entretient une serre. Et avec une musique un peu psyché, machin. Et bon, j'adore. Parce que souvent, c'est associé à des musiques, en fait, que j'aime. Et même, voilà, Planète Interdite. Tous les premiers films de SF sont souvent des bandes-sons géniales et hyper inventives et tout. Donc, la SF, elle est là depuis un moment. Et au moment où je tombe enceinte, enfin, je ne le sais pas, mais probablement que mon corps le sent. Et je suis, voilà, chez moi. Devant mes instruments, mon ordi aussi. On a fait des jams avec Xavier, mais bon, on ne sait pas trop encore où va aller la prochaine étape. Et puis voilà, je vois la lune, et puis à la radio, j'entends parler de l'effondrement des systèmes. Tu sais, Pablo Servigne qui parle du monde, de la fin, pas de la fin du monde, mais de la fin du monde connu, quoi, peut-être. Du monde, d'un certain monde capitaliste d'abondance. Et ce le goût de la SF me revient et je me dis, mais c'est ça, tout de même, après un disque qui s'appelle Triomphe, je peux pas appeler le prochain disque au coin de ma rue, quoi. Tu vois, faut un truc, faut que j'aille dans l'espace.
Ouais, toujours plus loin.
Et j'ai pas forcément le titre du disque, mais du coup, voilà, j'ai cette image et cette image, elle va me guider, en fait, à travers le disque pour le choix des sons, le choix des ambiances. Et je fais ce morceau à ce moment-là, à peu près dans ces jours-là, Palmier Sauvage, avec ce début, je dis 2034. Donc c'est un futur qui est pas très éloigné. Hein. C'est mon fils aura seulement 15 ans en 2034. Donc voilà. Et donc, ça m'aide, si tu veux. Je crois que j'aime bien les... Enfin, il y a un truc cinématographique. Tout à l'heure, c'est dit dans Le Nom de la Féline. Et les images m'inspirent des climats sonores, en fait.
Et quelle approche est-ce que tu utilises de cette science-fiction? Tu approches une approche intime, comme tu le faisais ou tu t'externalises comme un album qui serait...
En fait, c'est toujours... tu vois, c'est toujours dialectique, pour utiliser un gros mot, mais c'est qu'en fait... C'est jamais le contexte un peu stellaire, il n'est pas là pour m'éloigner de l'intimité, il est plutôt pour la retrouver. Et c'est une chose que j'ai compris tout à la fin du processus de création de l'album, alors que j'avais, une fois que j'ai trouvé le titre, je l'ai trouvé tout à la fin, Vie Future, c'était pas du tout... Et j'ai aussi, il faut dire que j'ai perdu mon beau-père, qui est décédé quelques mois après que j'ai appris que j'étais enceinte. Donc il y a eu un truc, tu vois, un peu cosmique aussi.
Une réflexion cosmique.
Voilà, de ce point de vue-là.
Où va-t-on, où est-on, etc.
Tu vois, c'est la chose la plus banale et en même temps la plus profonde, quoi. Et donc, et j'ai compris progressivement que le truc cosmique aussi, en un sens, quand t'es enceinte, t'es un peu une sorte d'univers, quoi, pour un être qui se développe en toi. Enfin, c'est assez fou, quoi, comme...
Je peux le comprendre, mais je ne saurais pas le vivre.
Tu peux l'imaginer, quoi.
J'imaginerais vaguement.
C'est ça. Et je pense que ça a joué aussi dans cette espèce d'imaginaire qui s'est imposé. Que voilà, il y avait quelque chose du milieu, tu vois, amniotique, dans lequel est la Terre et dans lequel était l'enfant qui allait naître, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que Et j'ai compris ça, comment les choses en fait s'associaient quand j'ai écrit le petit texte qui est associé au, à chaque fois j'associe un petit texte au disque, et voilà, qui s'appelle L'Archer de Lucrèce, et si les gens veulent le lire, il est sur mon blog Moderne c'est déjà vieux.
Des gamins qui chantent dans ces ruelles sonores où résonnent leurs pas. Cette fille du dessus qui crie plus fort que sa radio continentale. J'entends ce bruit blanc qui me caresse, me berce, transperce toutes les parois. Un enfant hurle et toutes ses machines malignes qu'on fait sans cesse tourner.
C'est étonnant comment on continue à être inspiré par la science-fiction alors qu'on vit quand même relativement, si on regarde de manière assez plate, dans un mauvais film ou un mauvais roman de science-fiction. Ouais, hein, ouais. Tous les éléments sont là, sont là, dispersés dans une réalité.
Et en même temps, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui a changé. Parce que dans des mauvaises critiques, j'ai lu, enfin mauvaises, pas négatives, mais disons pas très subtiles. Mais enfin, d'ailleurs, c'est pas sympa de dire ça, parce que c'est toujours sympa de faire une chronique d'un disque.
Oui, mais enfin bon, il y a des chroniques qui ne disent pas grand-chose des chansons.
Il y en a qui disent « Ah oui, c'est un disque rétro-futuriste ». Et là, mais qu'est-ce qui est rétro? Enfin, tu vois, c'est pas rétro. Enfin, je, non. Là, quand je parle de vie future, je parle vraiment vraiment et justement d'essayer de donner sens à, et c'est vrai qu'il y a eu une certaine idée du futur dans les années 70 liée à cette explosion de l'imagerie SF et que on n'a plus la même image du futur. Déjà on n'a plus une image en mode conquête, on a une image en mode décroissance, en mode qui va pouvoir survivre, les ressources, enfin tu vois, il y a un truc beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus c'est la catastrophe, mais même sans le sublime de la catastrophe qu'il y avait dans les films de Roland Emmerich, la 2012 et tout ça, il y avait un truc un peu spectaculaire. Même ça, on ne voit plus comme ça en termes spectaculaires. Même si, quand tu as des cartes, des feux de forêt.
On est plus proche du fils de. Comment ça s'appelle
Du fils de l'homme, ouais, de Quaron. Ouais, mais c'est un peu ça. Avec plus qu'un gamin. Ouais. Et voilà, et donc le futur, il a changé. Il faut aussi le percevoir, ça. Et moi, je crois pas que dans mon disque, il y ait une quelconque nostalgie de la façon dont on voyait le futur avant. C'est plutôt, je fais des disques de que ferait une personne d'aujourd'hui, quoi. Ça m'embête parce que tu vois, du coup, ça renvoie la musique à un truc un peu fétichiste. J'aime bien le, enfin, bien sûr.
L'exercice de style, tu voulais dire de
ouais, de sans cœur où tu mets pas ton cœur, quoi. Alors que si.
Mais musicalement, tu n'utilises pas des kitscheries, si je peux dire.
Je pense
tu restes dans ton univers quand même.
Ouais. Et surtout, tu vois, en fait, pour le coup, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup d'instruments VST bidouillés, d'émulation.
Est-ce que c'est de la bedroom pop ou cet album ou pas?
Un peu. Alors, c'est paradoxal parce que ça se veut être de la cosmic pop. Mais, il y a, de toute manière, il y a beaucoup de sons qui ont été faits dans une petite pièce chez moi. Avec un iPad, ouais. Et où je me disais, ah bon, on refera, et puis finalement, c'était bien comme ça, quoi. Donc, je l'assume, parce que c'est aussi ça, la modernité, cette impureté. J'ai pas 40 000 synthés vintage chez moi, j'en ai d'ailleurs aucun. J'ai juste un Electone, tu vois, ces orgues des années 80, et qui est super, et qui m'a coûté 124 € chez Le Bon Coin, et voilà.
Alors, de toute manière, le studio est dans l'ordinateur maintenant.
Ouais, après, comme musicien, tu le sais aussi, on a parfois besoin de travailler avec un instrument parce que pour se soulager aussi des infinies possibilités qu'offre un ordinateur et qui sont parfois un peu paralysantes en fait. Mais disons que voilà, là, il y a beaucoup d'émulation assumée, quoi. Et après, il y a quand même du vrai violon. Mais il y a des choses mélangées, comme aujourd'hui, quoi, comme notre vie d'aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de vrai bio. Garantie non bio.
et la pochette de l'album, donc, va dans la même direction. Si tu as une...
ouais.
Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a quand même l'esthétique aussi des visuels de tes disques, des photos. Tout ça est quand même très travaillé. Enfin, je veux dire, tu réfléchis quand même à comment... Chaque album est comme un peu dans la tradition des albums pop. Ou rock, travailler d'une certaine manière pour faire rentrer dans la musique. Tu mets de l'importance à ça, je veux dire.
Oui. En fait, ce que j'ai fait jusqu'ici sur les pochettes, j'ai cette question de l'incarnation dans la musique. Et je pense que toutes les musiques ne demandent pas à ce qu'on voit la chair de celui qui chante.
Bien sûr.
Mais pour la mienne, je crois que ça compte que j'apparaisse sur les pochettes. Parce que c'est comme une manière de prévenir que ce disque... et dit des choses de cette personne qui est une construction parce que t'es pas tout à fait la musicienne que tu... mais voilà, et donc ça m'amuse de jouer sur Radio L'Enfance où il y a presque cette personne qui se refuse à être vue, quoi. On a mis une photo ratée en fait dessus, une photo où on voit pas vraiment mon visage. Triomphe, où j'étais en quête d'une certaine authenticité et je m'étais mise à réfléchir à ça, justement, à la question de l'authenticité dans les formes enregistrées, dans les formes picturales aussi. Et j'avais revu par hasard, tu sais, toutes les photos qu'a fait Curtis des Indiens au début des années 1900. Et donc, j'avais été saisie, comme tout le monde, par les regards de ces gens qui n'ont jamais été photographiés et par cette manière de regarder un objectif quand tu n'as jamais été photographié. Et je me disais, mais en fait, nous, c'est impossible. Enfin, on a tellement déjà vu des milliers de fois notre propre image fixée que ce regard qu'ils ont là, il est perdu. Et donc, je m'étais dit, je voudrais quand même reproduire le dispositif. Et avec le photographe Alexandre Guerquinger, il m'a pris en photo à la chambre, 25 cm, comme Curtis prenait les Indiens, et avec donc Tu sais, une espèce de toile derrière. Enfin, on avait vraiment recherché tout le... Et tout en sachant que c'était perdu d'avance, la possibilité de trouver, voilà, un regard qui échappe à la conscience de lui-même, quoi, qui... Et mais donc voilà, et pour Vie Future, au départ je voulais poser avec mon bébé, mais au moment où on a fait la photo, il devait avoir 2 mois et demi, et il était vraiment tout petit, et on s'est dit, pauvre enfant, on va pas lui mettre un casque, tu sais.
Oui, oui, j'en ai bien
parce que c'était l'idée, je voulais, et on voulait, dès le départ, avec Julien Amouroux, là, l'artiste qui a tout fait, le casque et tout ça, parce que c'est pas un montage, hein, c'est une vraie photo, mm-hmm. Avec Julien, on avait cet amour des peintures de Giotto, donc peintre italien, primitif italien, avec ses ciels, tu sais, incroyables, et des bleus. Et c'est le moment où les peintres peignent beaucoup avec de la feuille d'or. Et donc, il a recouvert l'intérieur du casque qu'il a fait lui-même de feuilles d'or. Et la lumière que renvoyait cette feuille d'or était incroyable. Et donc, évidemment, ça jouait sur l'idée d'icône... et de, voilà, l'auréole et en même temps un casque futuriste, et il a peint le fond. Enfin, c'est quelqu'un de très doué, de très ingénieux.
En parallèle à la musique, tu as quand même aussi alors ça, je voulais te poser la question. Bon, moi je fais ça sans problème, puisque j'anime des émissions de radio. J'écris plus trop des masses sur la musique parce que c'est pas trop ma formation, mais toi à côté de ça, tu as quand même sorti un livre qui est absolument formidable.
Ah, merci.
Enfin, moi j'aime beaucoup. Tu vas d'ailleurs me le dédicacer, je l'ai amené.
Trop bien.
Mais tu as aussi écrit sur la musique pour des journaux, tu as participé parfois aussi comme... Enfin, j'ai entendu quelques fois, suite au succès du livre, j'imagine, comme avis expert. Enfin,
ouais, c'est vrai.
Quelle position, comment est-ce que tu arrives à combiner les deux?
Disons que c'était peut-être plus compliqué quand le livre n'existait pas, tu vois, quand j'avais tout ça dans la tête et que ça c'était pas extériorisé, quoi. Et que j'ai longtemps vécu le rapport philosophe, enfin le fait de faire des études de philo à côté et musicienne comme un truc un peu déchirant, enfin, et déjà le fait de commencer par faire mon blog, d'écrire, de parler des musiciens qui étaient mes amis, et de faire valoir des talents d'écriture littéraire, pas seulement musical, ou ça donnait un truc intermédiaire. Et puis là, par moderne, c'est déjà vieux, du coup il y a les Libé qui est venu me chercher, qui m'a dit, oh, ce serait bien si vous écriviez. Donc être critique, c'était chouette aussi, enfin c'est chouette aussi, même si j'écris moins là, parce que
et tu rencontrais des gens là en ce moment là aussi, ou c'était vraiment de l'écriture de chronique de disque, ou il y avait comme des interviews?
Ouais,
des
pour Libé j'en ai pas fait beaucoup. J'ai interviewé Neil Hannon et
Cat
Power. Ouais, on m'envoyait sur des bons trucs.
Oui, mais c'est intéressant, je dirais, même pour toi, que journaliste.
Mais tu sais, quand t'interviews, parce que du coup j'interviewais essentiellement des gens anglo-saxons, parce que je me disais, si je commence à interviewer des Français, là, trop de gens me connaissent, machin, je vais avoir des pressions.
Oui, c'est ça,
des
tu voulais
pressions,
mettre une...
Et donc, ils se comportent... C'est normal, c'est des stars. Ils pouvaient pas me parler de musicien à musicien. C'est des gens qui arrivent, qui savent que tu es là pour leur poser des questions sur eux et sur leur musique. Donc, tout ça, ça a fait qu'il y avait des transitions, des ponts en tout cas, entre les différentes manières d'aborder la musique.
Comme beaucoup en Angleterre, ça se fait, hein, des journalistes qui deviennent eux-mêmes des auteurs, des compositeurs ou des interprètes, ou l'inverse, il y a des passerelles.
Ouais, et là, en fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est que, bon, Dialectique de la Pop, je suis la plus grande... satisfaction, c'est que c'est un livre qui est apprécié par les musiciens, et que c'est eux que j'avais en tête aussi quand je l'écrivais, au sens où tu dialogues un peu avec ton lecteur fantasmé. Et c'est aussi en discutant énormément avec des musiciens que beaucoup d'idées ont pris forme. Et donc, ça c'est quelque chose qui me rapproche de la musique. Et finalement, du côté de la philo, moi, j'ai, tu vois, tous les profs à Normalsup et tout ça, qui sont des grands philosophes, ils n'ont pas de culture en musique pop, en fait. Et du coup, ils ne font pas forcément le lien, ils ne voient pas...
Et puis souvent,
des gens de ma génération, ceux-là, ceux qui ont à la fois fait de la philo et qui sont sensibles à cette musique, bon, là, ils voient le travail qui est fait, ils comprennent la mesure de l'effort que j'ai pu faire, parce qu'ils voient, ils se disent, ah oui, ça, effectivement, ça n'existait pas, un livre qui se donne les moyens d'essayer de penser qu'est-ce qui change dans la pratique de l'enregistrement d'un art oral, la musique populaire. C'est pas un art, c'est pas une musique écrite. Donc, Et voilà, il fait son chemin et c'est vrai que c'est enthousiasmant. Mais tu sais quoi, je suis même un peu écrasée par ce livre, pas par ce livre, mais je sais plus. Hier, j'étais à un truc, pas hier, hier, j'étais à Anvers pour faire un concert, mais avant-hier, il y a AOC qui a organisé un truc à Lyon. Et puis comme ça, trois personnes différentes, j'ai lu ton livre, fantastique, machin. Et je me dis, purée, mais je vais rien pouvoir écrire après, quoi, parce que c'était tellement important pour moi. Tu vois, je l'ai tellement porté ça pendant 8 ans, c'était le truc. Et que du coup, ouais, j'ai mis tout mon cœur aussi dans ce livre, en fait. Aussi, même si je parle jamais de moi, mais en fait...
Mission réussie.
Ouais, je me suis bien
amusée. Comme dans le cosmos.
Non, c'est bien.
Qu'est-ce qu'on peut attendre?
Major Tom, Major Gero. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur proche, vraiment proche, là?
Ah, le futur proche, on peut venir nous voir en concert. C'est ça qu'il faut faire.
C'est ça que tu travailles pour le moment. Ouais. C'est vraiment le...
Ouais. Là, je fais d'autres... Il va y avoir un petit nouvel EP qui arrive. Mais voilà, avec quelques inédits. Et puis, voilà. Et peut-être un petit clip. Mais c'est la scène. Et puis, j'ai un autre projet avec un musicien qui s'appelle Mondkopf. Où là on fait une musique un peu plus stoner, on va dire, et je libère mon amour pour les guitares et les sons, les grosses saturations, mais toujours avec un côté un peu mélodique, et j'y chante, figure-toi, en anglais.
Voilà,
et ça devrait sortir
aux passions premières
en septembre prochain, quelque chose comme ça. Et ce sera unique. Pas sous le nom de la Féline.
Oui, c'est ça, c'est ton side project.
Ouais, voilà.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Avec grand plaisir.
Donc voilà, toutes les infos seront dans le corps du podcast. Voilà.
Et écoutez Vie Future, parce qu'il est quand même super.
Ah ben, on a déjà écouté quelques extraits.
Ah oui.
Mais évidemment, écoutons les trois albums, réécoutons les années Quiet Dan.
Ouais, les années Quiet Dan. Arrête, ça me fait peur, parce que ça veut dire qu'après, il va falloir que c'est une autre phase. Bon, on verra bien ce que le futur nous réserve.
Voilà. Allez, merci, salut.
Merci.
Viens, je sais.